Bienvenue aux Apatrides Anonymes, émission du 3 juin 2021, 18h30 pour les gens qui nous écoutent en direct, édition du... On est quelle date déjà? 3 juin 2021. Donc en direct des studios de Choc à l'UQAM ou en balado sur choc.ca. C'est Simon à l'animation pour cette émission-ci. Je suis encore en compagnie de Marie-Ève et Mathieu. Bonjour Marie-Ève.
Hello Simon.
Salut
bonsoir,
Mathieu.
Bonsoir.
Formule d'émission, vous la connaissez. Mathieu et Marie-Ève sont les chroniqueurs, si on peut dire, qui nous ont préparé des segments.
Les experts amateurs.
Expert amateur, OK. Moi, je vous voyais en plus haute estime que ça, mais en tout cas, on va vous prendre comme vous êtes. Donc, des segments de nouvelles que Mathieu et Marie-Ève nous ont préparés exclusivement internationales, cette fois-ci. Donc, Mathieu, Israël, Palestine, principalement. Marie-Ève, une des enclaves espagnoles au Maroc et la France, évidemment. Sarkozy sort de ce corps. Mathieu nous a aussi préparé l'agenda avec des suggestions militantes et ou culturelles, des nouveautés musicales tout au long de l'émission. Et moi, pour compléter dans les petits segments d'animation, je vais insérer des nouvelles plus locales et nationales. Et je dois vous avouer qu'avec la semaine de fou qu'on a eue, c'était pas facile de faire des choix.
C'est le cas de le dire.
La fosse commune sauvage dans l'ancien pensionnat à Kamloops avec les restes de 215 enfants autochtones, avec quand même une onde de choc assez impressionnante. Charlottetown qui déboulonne Johnny McDonald, la fin des audiences publiques sur la mort de Joyce Echaquan, la prise de conscience des conditions dégueulasses dans lesquelles vivent les travailleurs guatémaltèques et mexicains aux serres de tomates de Mers, le centenaire du massacre de Tulsa, la bande de Gaza qui est complètement à terre, Netanyahou qui pourrait perdre le pouvoir aux mains d'une coalition potentiellement encore plus dangereuse que lui, Bachar al-Assad réélu à 95% des voix. Ouf!
Jusqu'ici, tout allait bien.
Je vais arrêter là parce que je pense que je pourrais continuer pendant 5 minutes. Je vais juste faire une liste là, de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Donc, j'ai essayé de parler d'autres trucs tout au long de l'émission, donc qui sont passés un petit peu plus à côté du radar. On est aux Apatrides Anonymes, donc je vous reviens tout de suite avec ma première brève. Avant de céder le micro à Marie-Ève, on va commencer doucement, mais j'ai comme l'impression que ça va se corser tout au long de l'émission. Alors, Trudeau a présenté les excuses officielles du gouvernement canadien envers la communauté italienne qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, a vu pas moins de 600 de ses ressortissants, des Italo-Canadiens enfermés dans 3 camps de détention au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta. Ces personnes avaient été déclarées ennemies de l'État sans accusation formelle et personne n'avait été tenu responsable de ce genre de vendetta depuis 75 ans. Il n'y a jamais eu d'enquête, même à ce que je cherche. Bref, non. Il y a eu des excuses comme ça. Donc, il y avait effectivement des sympathisants fascistes parmi les Italo-Canadiens, comme il y avait des chemises brunes bien canadiennes-françaises et d'autres fascistes de d'autres origines aussi. Mais on a décidé principalement de s'en prendre aux Italiens. Il y avait eu les Japonais aussi, évidemment. Donc, je pense que c'était les deux groupes culturels les plus ciblés par le gouvernement. Puis, au sein même de la communauté, ça avait été fait de manière pas mal arbitraire aussi, là, sur toutes sortes de témoignages, de dénonciations non vérifiées, c'est ça. Il y a eu des règlements de compte. Donc voilà, après les Chinois, les Japonais, les Sikhs, les Juifs, les homosexuels, venait enfin le tour des Italiens de recevoir les excuses officielles de Justin Trudeau. Excuses qui ne s'accompagnent pour l'instant d'aucune forme d'indemnisation. Mais bon. Au même moment de ces excuses, on apprenait que dans la fonction publique fédérale, dont en quelque sorte Trudeau est le grand patron, depuis des années, il y a plein de cas de racisme, harcèlement, violence verbale et physique, humiliation, pas d'avancement professionnel, traitement différencié par rapport aux collègues blancs. Ça touche principalement les employés noirs et ce serait partout, dans tous les ministères et organismes fédéraux, et même à la Commission canadienne des droits de la personne.
Ouais.
Donc, ça me rappelle le musée à Winnipeg des droits de la personne où le directeur avait été...
il y avait des allégations de...
Ouais, c'est pas drôle, mais c'est pas parce que c'est drôle qu'on rit.
C'est exactement...
Ouais. Donc, plein de plaintes pour toutes ces raisons-là qui sont restées à ce jour inconnues, qui n'ont pas été comptabilisées. Donc, on a on connaît pas l'ampleur du phénomène parce que la fonction publique fédérale met dans la main que les syndicats et les organismes responsables du traitement des plaintes ont toujours préféré obtenir des ententes à l'amiable avant de se rendre en arbitrage. Donc, non seulement on n'a pas de statistiques là-dessus, mais surtout, ça fait en sorte que ce système-là se maintient depuis des décennies parce que des poursuites, c'est pas juste pour obtenir réparation. Ça permet aussi, normalement, dans une certaine mesure, de documenter un système, de le corriger et ou tasser les personnes qui sont problématiques. Donc, par rapport au racisme dans la fonction publique fédérale, on a un genre de système d'omerta qui est financé par l'argent public, donc par vous et moi. Des arrangements qui vont parfois dans les dizaines de milliers de dollars et qui sont toujours assortis d'une clause de confidentialité. Là, il y a une nouvelle présidente élue au Comité des droits de la personne à l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Mme Jenny Esnard. Elle a décidé de prendre ça au sérieux. Elle a mis sur pied un caucus noir. Elle a trouvé, en prenant peut-être possession de son bureau, des centaines de dossiers de plaintes qui avaient été négligés ou ignorés depuis des années. Donc, ça annonce peut-être la fin de l'omerta. Et en plus, il y a maintenant 800 fonctionnaires noirs qui intentent une action collective de 2,5 milliards contre le gouvernement fédéral. Le recours, ben, ça n'a pas encore été autorisé comme recours collectif, mais avec l'épaisseur...
Ben avec les informations qui sortent...
C'est ça, donc le montant sera sûrement à vérifier, mais histoire à suivre. Plus près de nous, à Montréal, je termine là-dessus, Marie-Ève, je sens qu'elle a hâte de nous parler. Il y a eu un rapport externe sur des pratiques racistes envers l'école bleue issue de minorités dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Les représentants syndicaux et les gestionnaires sont majoritairement blancs et font du favoritisme envers les employés blancs. Le rapport mentionne du racisme ordinaire comme insultes ou petites blagues niaiseuses, mais aussi des pratiques plus systémiques comme favoritisme dans l'octroi des heures supplémentaires, dans l'attribution des véhicules climatisés, postes avec mise à pied saisonnière attribués surtout aux minorités, places désignées à la cafétéria pour les travailleurs noirs. Donc, vous voyez, ça va assez loin. J'imagine que ça existe dans plusieurs clos de voirie à travers plusieurs arrondissements de la ville. Il y a des initiatives qui sont mises en place, mais sur certains dossiers, la ville-centre, les arrondissements et les syndicats reconnaissent que oui, il y a un problème, mais ne s'entendent pas toujours sur les solutions et se renvoient entre eux la balle. Donc, un beau jeu de ping-pong. Marie-Ève, je te laisse enfin la parole. On va traverser l'Atlantique. On s'en va dans une des deux enclaves espagnoles au Maroc.
Oui, c'est ça. Je vous amène à Ceuta. Quelques informations de base d'abord là, pour mieux prendre la mesure, disons, de ce qui s'est joué ces dernières semaines. Cette enclave espagnole que tu disais, comme sa voisine Melilla, est en face de la péninsule ibérique, à environ 15 km des côtes de la province espagnole de Cadix. Ceuta a une superficie de 18,5 km², ce qui n'est pas très grand, et sa population est estimée à environ 84 000 personnes, dont 45% sont de confession musulmane et d'origine marocaine. Il faut savoir aussi que Ceuta occupe une position stratégique parce que avec Melilla, ce sont les deux seuls points de passage terrestres qui relient l'Union européenne de l'Afrique.
Le seul endroit où il y a un mur, finalement, entre l'Union européenne
aussi,
et l'Afrique.
Aussi, oui. Et donc, en raison de cette position-là, Ceuta connaît évidemment depuis longtemps un important flux migratoire depuis le nord de l'Afrique. Sauf que là, en mai, en l'espace de seulement 4 jours, il y a environ 8000 personnes, dont 6000 en une seule journée. Donc, 8000 personnes, majoritairement des jeunes Marocains qui sont débarqués à Ceuta. La plupart à la nage, d'autres utilisant parfois des bouées gonflables ou encore des canots pneumatiques. D'autres aussi qui marchaient parce que, c'est possible de le faire, de se rendre à pied quand la mer est basse et que, quand c'est à marée basse et que la mer s'est retirée. Dans ces personnes-là, quand même 8000 personnes, c'est beaucoup en peu de temps. On déplore 2 personnes qui sont mortes, noyées, en tentant la traversée. Ce qui est triste, mais en même temps, bon, peut-être, on pourrait dire un peu, si on considère le nombre de personnes, mais on s'attend à ce qu'il y ait plus de corps éventuellement qui soient retrouvés, parce que plusieurs personnes ont disparu. Cet afflux-là massif a donné lieu à des scènes que j'imagine que vous avez vues dans les médias, des scènes particulièrement violentes.
C'était surréaliste un peu, là. Ouais. Les soldats avec toute armée, avec leur uniforme qui plonge à l'eau. Là,
oui, c'est ça, exactement, parce que les autorités espagnoles ont comme dépêché sur place l'armée, les policiers anti-émeutes, des blindés sur la plage aussi, donc qui tentaient là, de refouler les nageurs à coups de tirs lacrymogènes, de balles de caoutchouc. On parle d'un épisode nocturne qui a été particulièrement violent, qui a vu des milliers de jeunes marocains jeter des pierres sur les forces de l'ordre à Finédec, qui est la ville marocaine limitrophe de Ceuta, puis d'incendier la moto d'un responsable local, de la sécurité et de mettre le feu à des poubelles. Donc, je vous parlais de 8000 personnes. Là, on dénombre à peu près sur les 8000, 6000 à peu près qui ont été expulsés du Maroc par les autorités espagnoles. La plupart qui ont été mises dans des autobus affrétés par les autorités marocaines. Et puis, selon Madrid, parmi les personnes migrantes arrivées, il y en a 1500 étaient des mineurs, mais Amnesty International, elle, avance plus le nombre de 2000. Faut rappeler là, que le droit, si nécessaire, rappeler si nécessaire que selon le droit international, l'expulsion des mineurs non accompagnés est interdite. Alors, il y a un procureur de Ceuta qui a d'ailleurs ouvert une enquête sur cette question-là, parce qu'on soupçonne l'expulsion de plusieurs enfants arrivé à Ceuta. Pour l'instant, l'enquête se concentre sur le cas d'un jeune homme en particulier, un garçon qui est arrivé en pleurs dans l'enclave. Il était avec une bouée, il s'était fait fabriquer une bouée faite de bouteilles de plastique. La vidéo a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et donc deux ONG ont porté plainte. Parce que quelques instants après son arrivée, on a vu des images qui ont été diffusées par l'agence de presse Reuters montrant le jeune homme être escorté vers la barrière frontalière entre Ceuta et le Maroc par des soldats espagnols, mais il semblerait qu'on ait perdu sa trace. Donc de là l'enquête. Comment on peut expliquer cette recrudescence,
cet afflux
vraiment sans précédent. On parle particulièrement des tensions diplomatiques entre Madrid et Rabat en raison parce que bon là il y a des grandes tensions entre les deux pays parce que depuis la fin avril l'Espagne a accueilli pour des soins médicaux le chef des indépendantistes sahraoui du Front Polisario, Brahim Ghali. Donc, c'est que le conflit au Sahara occidental, qui est une ancienne colonie espagnole qui est classée territoire non autonome là, par les Nations Unies, parce qu'il n'y a jamais eu de règlement officiel. Donc, ce conflit-là oppose le Maroc depuis 45 ans. Puis le Polisario, le Maroc, dans cette lutte-là, est appuyé par l'Algérie. Pour montrer sa désapprobation, donc, à l'hospitalisation du chef indépendantiste, le Maroc a diminué drastiquement ses contrôles aux abords de l'enclave espagnole. Donc, c'est ça qui a fait que des milliers de personnes migrantes ont été en mesure de traverser la frontière.
Donc, ça force l'Union européenne à prendre ses responsabilités, à faire face, finalement, à la réalité. Là.
Ben, à faire face à la réalité, oui et non, mais parce que là, l'Espagne, elle, de son côté, a dit que cette façon de faire-là, c'est une agression de la part du Maroc à l'égard des frontières, de ses frontières. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Skinas, lui, il dit que c'est une forme de chantage pour faire chanter l'Union européenne. Sinon, il y a aussi des associations, dont l'Association marocaine de droits humains, qui, elle, dénonce cette manœuvre politique-là parce qu'elle dit, en fait, que c'est à la fois l'Espagne et le Maroc qui instrumentalisent en permanence la question des migrations au mépris des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile. Mais faut dire aussi que la situation sociale et économique au Maroc était déjà propice à cette vague migratoire-là. Puis, selon plusieurs, elle aurait pu exister, tu sais, sans ces tensions diplomatiques-là.
Peut-être un peu moindre, mais quand même, là.
C'est ça.
Mais de toute toute façon, Marie-Ève, une frontière, normalement, c'est pas barricadé comme ça. C'est-à-dire que dans d'autres pays, les gens passent, puis on reproche pas au pays d'où viennent les gens de les avoir laissés passer. C'est juste que là, ils ont des ententes de sécurité.
C'est ça, des ententes bilatérales.
Exactement. C'est puis, ça. De toute façon, l'Union européenne et l'Espagne ont le devoir de ne pas refouler massivement les gens. Ils doivent prendre leur demande d'asile s'ils le demandent. Fait qu'expulser 6 000 personnes d'un coup, disons qu'au niveau des droits de la personne, s'ils font des reproches au Maroc, c'est pas
ouais, bon. Ben, c'est ce qui a été fait quand même. Ouais,
c'est des reflux massifs, des expulsions massives, sans traiter le cas des gens individuellement, ce qui est supposé être la norme, là.
C'est ça.
C'est ça. C'est contraire à ce que toutes les conventions disent.
Ben oui.
Puis, en quelque part, comme tu dis, l'Espagne n'a pas à se mêler de la frontière marocaine avec les autres États. Ça la regarde pas, à la limite. Là.
Ouais. Là, c'est sa frontière
c'est
à elle.
C'est sa frontière à elle?
Oui.
C'est Ceuta. Ceuta, c'est une enclave espagnole au Maroc.
Oui, je veux dire, mais quand elle reproche au Maroc d'envoyer, entre guillemets, des ressortissants vers la frontière de l'Union européenne...
C'est de ses propres ressortissants.
Oui.
Oui, non, je veux bien, mais c'est comme si tu peux pas empêcher les gens de sortir de chez
c'est
vous.
C'est ce que je disais au début, c'est ça, ouais. Exactement, c'est ça. C'est que parce qu'ils ont des ententes particulières, mais de toute façon, c'est de la politique. Et puis, c'est déjà arrivé aussi qu'il y avait eu d'autres groupes de personnes qui sont arrivées à Ceuta, au Melilla. On se rappelle, les gens qui prenaient des échelles pour passer par-dessus des grandes clôtures.
Oui, oui.
Donc, c'est déjà arrivé dans
le passé. Oui, qui venaient du Niger, entre autres, du Mali,
ouais,
c'est
ouais.
Ça.
Bref, c'est ça.
C'est
donc,
ça?
Ça va pas super bien, à moins que j'aie encore un peu de temps, mais je pense pas. Je pense que mon temps est écoulé,
ça
fait le tour pas mal.
Mais on va te retrouver plus tard dans l'émission, Marie-Ève.
Oui, je sais. Je ne puis quitter ce micro.
Ah, mais là, on accueille Mathieu dans quelques secondes. Comme vous avez pu l'entendre, parce que nos micros sont restés ouverts, je pense. En tout cas, bref, Mathieu est devant moi pour
rebonjour.
Rebonjour, Mathieu, pour des actualités. Cette fois, ben, on se va vers l'Est, vers le Proche-Orient.
Oui, on reste quand même un peu dans la même région méditerranéenne. C'est
ouais,
le bassin quand même.
À l'autre bout de la Méditerranée.
Tu as parlé un peu de Gaza puis de Netanyahou tantôt, donc je vais parler un peu différent. C'est qu'il y a beaucoup de nouvelles par rapport à ce qui s'est passé il y a deux semaines, l'espèce de dizaine de jours de violence assez extrême. Mais plein d'éléments qui ont précédé ça, qui se sont passés pendant, mais ailleurs dans la même région, et depuis aussi. Puis même, j'ai des nouvelles par rapport à ici, les réactions qu'il y a eu, puis tout ça. Donc, okay. C'est un peu pour de différentes nouvelles, je vous dirais. Je vais commencer avec... Je voulais vous en parler il y a deux semaines, j'ai pas eu le temps à l'émission.
On manque tout le temps de temps.
Oui, oui, mais c'est ça, je le rappelais aux auditeurs, parce qu'ils savent qu'on est très, très passionnés par ce qu'on fait.
Oui.
Donc, il y a eu une grosse vague d'arrestations parmi les Palestiniens d'Israël là, pendant cette période-là, il y a deux semaines. Puis ça a été assez violent, vous allez voir, je vais vous décrire certaines choses. On se croirait vraiment en Colombie ou en Turquie ou en Russie, c'est à peu près ce genre-là. Il y a eu donc des arrestations à Jérusalem et en Cisjordanie, beaucoup des morts aussi, mais il y a eu plus de 700 arrestations dans les territoires de l'intérieur, c'est-à-dire
donc vraiment Israël en tant que tel.
Dans Israël, dans les villes mixtes souvent ou dans les villes à majorité arabe, entre le 9 et le 14 mai, donc 700 arrestations dont des dizaines d'enfants. Et ça visait évidemment à empêcher les gens de défendre leur maison, leur famille, leur quartier, leur ville face aux agressions des milices sionistes qui sont appelées là-bas, milices d'extrême droite là juives. Et en précédant ces arrestations, les forces de l'ordre et la justice israéliennes ont légitimé l'action de ces milices qui ont agressé les Palestiniens, tiré sur eux, incendié et vandalisé leurs propriétés. Mais qui ont été arrêtés surtout, évidemment, les Arabes, qu'on appelle, on ne parle pas nécessairement des Palestiniens.
Quelle surprise,
oui. Donc, arrestation massive de simples passants qui sont retrouvés là, évidemment. Barrage dans les quartiers, sur les routes, même si les manifs étaient terminés. Les voitures ont été arrêtées conduites surtout par des jeunes, évidemment, par la police. Et il faut savoir qu'en Israël, il y a à peu près 50 polices différentes différentes, 50 bras de l'armée différents. C'est un pays ultra militarisé et policier, là.
Donc, chacun leur couleur d'uniforme différente?
C'est une bonne question. Simon, j'imagine qu'ils ont au moins des insignes ou des brassards différents. Mais c'est vraiment compliqué, là. Parce qu'il y a beaucoup de police militaire aussi. Donc, c'est sûr que quand ils débarquent dans une ville ou un village, c'est assez intense. Donc, ils sont rentrés dans les maisons. Il y a eu des raids dans les commerces, les restaurants, les cafés. On a où des blessés étaient accueillis après les manifs. Ces lieux ont été vandalisés. Les blessés ont été arrêtés, amenés au poste de police. Donc, même les personnes qui ont filmé les violences policières ont été arrêtées à leur tour et agressées par la police. Ça, c'est dans plusieurs villes, je le rappelle, en Israël, dans les villes surtout palestiniennes, ben, arabes, pardon. Les forces de police ont refusé de transférer des dizaines de blessés interpellés à l'hôpital. Ils ont hésité pour les interroger avant au poste de police, avant de les envoyer à l'hôpital. Tu sais, on voit le genre de répression, là, sauvage. La police a gardé des personnes en détention pendant des heures avant de les interroger pour leur faire passer la nuit là. Des violences physiques pendant les détentions, lors des transferts vers les centres. Les unités anti-émeutes étaient présentes à l'intérieur des centres de police, des postes de police où les détenus étaient entassés dans des cellules minuscules, sans eau, sans nourriture, ni accès aux toilettes, évidemment. Ils ont pris en photo tout le monde sans leur demander leur consentement avec leurs blessures. Ils ont envoyé ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Des mineurs aussi qui ont été arrêtés. Ils ont eu les yeux bandés, les visages cagoulés. Ils ont été transférés pendant des heures d'une voiture à l'autre. Ils les promenaient dans la ville. Ils montraient à tout le monde. Ils ont été menacés de mort. Fausses preuves contre les manifestants. Et ça, ce que je vous raconte, c'est le rapport des avocats, là, du groupe d'avocats qui défend les détenus donc okay. arabes de ces soulèvements-là, de ces manifs-là des dernières semaines. Évidemment, au niveau juridique, ben, on a empêché le travail des avocats en masse. La police a tenté d'épuiser les avocats en retardant les interrogatoires jusqu'à l'aube et les obligeant à attendre de longues heures avant de pouvoir rencontrer les détenus. Étant donné le nombre d'arrestations arbitraires, la police a décidé de libérer les détenus sans les faire passer devant un tribunal, mais avec des conditions très, très sévères pour pas qu'ils participent à d'autres manifestations. Bien que les détenus aient fait appel, les tribunaux ont volontairement tardé à rendre les décisions en ne se penchant sur ces cas qu'après la fin des périodes d'assignation à domicile ou d'éloignement. Les procureurs ont leur tour émis des accusations fallacieuses, évoquant entre autres l'incitation à la haine et prétendant que les manifestants ont appelé à la mort des Juifs. D'autres chefs d'accusation ont été invoqués comme usage d'explosifs, les crimes racistes à grand renfort de lois terroristes qui sont très nombreuses en Israël. Et lors des procès visant à prolonger les périodes de détention, les avocats ont pu constater le rôle central joué par une justice qui obéit à l'appareil politique et qui a fait fi des droits humains les plus élémentaires. Les juges israéliens ont presque systématiquement ignoré les agressions subies par les détenus en prison ou dans les postes de police. Ils ont refusé de prendre en considération toutes les exactions commises par les forces de sécurité. Et les juges n'ont pas reconnu aux détenus le droit de manifester, pourtant garanti par la loi israélienne. Enfin, dans la plupart des cas où le tribunal autorise la libération des détenus, le procureur a fait appel. Les décisions étaient cassées par un autre juge. Donc, l'écrasante majorité des appels de la défense ont été refusés. Ça a duré pendant... Il y a eu des arrestations pendant plusieurs jours, à peu près il y a deux semaines. À la fin de la période d'agression de conflit ouvert. Et depuis ce temps-là, c'est les poursuites judiciaires. Mais ça, tu sais, c'est en Israël avec des citoyens israéliens. Donc, on s'imagine ce qui se passe en Cisjordanie, à Jérusalem, dans les territoires occupés et à Gaza, évidemment. Puis ça, ben, je vais vous en parler tantôt, mais c'est sûr que c'est un peu une nouveauté que les Arabes israéliens se sont révoltés. C'est une des premières fois.
Fait qu'on te garde avec nous pour la suite Israël-Palestine dans 4 minutes. On s'en va en musique avec Mdou Mokhtar, la chanson et l'album s'appelle Afrique Victime. C'est tout récent, lancé le 21 mai dernier sur Matador. Mdou Mokhtar, rapidement, c'est un chanteur, guitariste touareg, donc du Niger. Il est aussi auteur, réalisateur. Ses chansons sont souvent en langue tamashek. Ça parle de colonisation, de révolution et de liberté pour le Niger. C'est un mélange de sonorités traditionnelles, de guitare berbère, rock, électro. C'est très bon. Réception unanime, le Pitchfork, session live avec EXP, 8.4 sur 10 dans le Rolling Stone, en tout cas, bref. On écoute sur les ondes de choc.ca aux apatrides Mdou Mokhtar, Afrique Victime.
Yeah.
Mdou Mokhtar, c'est vraiment très, très bon. On est en train de danser en studio.
À voir en spectacle, Simon, dès qu'il revient.
OK.
À voir en spectacle.
OK, on perd du temps, là. Mathieu, okay. On retourne. Ben, après la répression pas mal totale et intense dans les territoires israéliens envers les Arabes, comme tu disais, qu'on les appelait.
Oui.
D'autres aspects de cette semaine?
Ben, écoute, oui, j'irais avec des appels aussi à la solidarité, puis avec des choses qui se sont passées ici, aussi en lien avec le conflit là-bas. Le collectif Musician for Palestine a sorti une déclaration appuyée par plus de 600 musiciens à travers le monde, dont des gens comme Godspeed You Black Emperor, on dit des membres de Arcade Fire, donc c'est pas le groupe au complet, si je vois bien.
Ils sont trop nombreux.
Ils sont trop... Peut-être, ou ils sont pas tous d'accord. Sonic Youth, System of a Down, Chromeo aussi, qui vient de Montréal. Donc, plein d'artistes qui ont fait une déclaration qui est quand même assez sympathique, et je vous lis seulement le dernier paragraphe de la déclaration. Ça dit, nous vous appelons à nous... Ben, c'est un appel aux musiciens, évidemment, là. Nous vous appelons à nous rejoindre en refusant de vous produire dans les institutions culturelles complices d'Israël, et en soutenant fermement le peuple palestinien et son droit à la souveraineté et à la liberté. Nous croyons que ce geste est indispensable pour pouvoir espérer vivre un jour dans un monde sans ségrégation ni apartheid. C'est pas la première fois qu'il y a des musiciens. Là-dedans, il y a Roger Waters, qui est pour la lutte palestinienne depuis des années.
Puis, tout le temps là.
Tout le temps là. Puis d'autres personnes qu'on peut Rage Against the Machine et tout ça. Mais c'est quand même là plus large. Puis c'est des musiciens de partout dans le monde. Donc c'est intéressant. Puis ça répond un peu aussi à l'appel du groupe hip-hop palestinien DAM, D-A-M, qu'on a déjà fait jouer à l'émission, je pense, qui vivent à Lydia, qui est en Israël, qui est une ville mixte en Israël. Et eux aussi qui ont été brutalisés là, dans les manifestations. Et eux demandent, par exemple, une enquête de l'ONU sur l'apartheid israélien et une force de paix de l'ONU pour protéger la communauté palestinienne autochtone d'Israël de la violence raciste approuvée par l'État en raison des milices d'extrême droite. Donc, il y a beaucoup de choses autour de ça. Ici, petit truc, je sais pas si vous avez vu passer par rapport au devoir. Je vous lis un court texte. La publication dans notre édition d'une caricature de Godin montrait un soldat israélien personnifiant l'État d'Israël, le genou sur le cou d'un civil palestinien couché au sol. Ça vous dit quelque chose? Ça a provoqué une vague de mécontentement importante. L'image choc publiée un an après le décès de George Floyd est utilisée pour illustrer l'iniquité dans les rapports de force. Et ça, supposément, ben pas supposément, ça a heurté des gens de la communauté juive. Et on a eu droit à un...
Et de la communauté noire aussi, ou non?
Non, non, ils parlent vraiment de la communauté juive. Ils ont même répondu, se sont un peu excusés à moitié. Okay. Mais il y a eu un article du Consul général d'Israël à Montréal qui s'appelle « Une caricature loin de la réalité », évidemment. Ah, donc, vous voyez un petit peu le portrait là, de ce genre de dynamique-là. Donc,
Marie-Ève baille à la console.
Bon, OK. Je sais que c'est pas une grande lectrice du devoir, on le sait, là.
Bon.
Sinon, ici, ben il y a eu un petit...
Les pleurnichages. C'est plus par rapport aux pleurnichages.
Ben oui, habituel.
Des consuls et...
Oui, puis le discours...
entre deux petites bouchées, là.
Oui, on accuse les gens d'être antisémites et tout. Justement, Toronto, il y a eu des manifs comme à Montréal là, par rapport au conflit.
Des assez grosses aussi.
Oui, ça a brassé aussi la diffusion d'une vidéo troublante qui semble montrer un homme se faisant agresser par des manifestants pro-palestiniens à Toronto, a suscité la réaction de plusieurs politiciens. Ça, c'était il y a deux semaines. Or, de nouvelles images ont fait surface et celle-ci montre que l'homme, vu dans la première vidéo, brandissait une arme finalement. Donc, ça a été John Terry, Doug Ford ont condamné un acte antisémite envers un vieil homme. Sauf que quand on regarde les images, la nouvelle vidéo qui est sortie après. Ça semble suggérer que l'affrontement a été provoqué par un groupe d'hommes brandissant des matraques qui étaient de la Jewish Defense League, un groupe d'extrême droite, entre autres actif aux États-Unis et en Europe.
Considéré terroriste dans plusieurs États.
Exactement. Et le Conseil national des musulmans canadiens a demandé à la police de Toronto d'enquêter sur la possible implication de cette Jewish Defense League. Il ajoute que de nombreux politiciens ont été prompts à sauter aux conclusions sur la base des premières images sans attendre une enquête approfondie en parlant d'actes antisémites, évidemment. Le porte-parole du premier ministre, Doug Ford, a confirmé que le premier ministre maintenait sa version malgré la nouvelle vidéo. Donc, va-t-il vraiment avoir enquête? Je ne suis pas sûr là-dessus. Est-ce qu'il me reste un peu de temps, Simon?
Un mini-sujet? Peut-être,
oui, ou... ben juste vous dire que nos amis de Voix juive indépendante qu'on a reçus quelques fois à l'émission ont fait des manifestations aussi mixtes Israël, juive et palestinienne pour revendiquer le fait que tous les juifs ne sont pas d'accord avec ce qui se passe de la part de l'État d'Israël.
C'est super important de le savoir. Ça.
Exactement, puis que c'est pas d'être antisémite de critiquer Israël. Donc, ils ont fait quelques sorties publiques qui ont été bien couvertes quand même. Puis, ben c'est ça, j'aurais eu d'autres nouvelles, mais écoute, c'est foisonnant, là.
Ben oui, on aimerait ça vivre dans un monde plus plate. On passerait juste de la musique, je pense. Là.
Ou faire 4 heures d'émission, hein?
C'est ça. Donc, toujours à Patrick. Ben justement, quelques notes de musique et on va retrouver Marie-Ève dans quelques instants. Marie-Ève qui court jusqu'en studio pour nous reparler. C'est pas très loin, la console. Il y a juste une vitre qui nous sépare, mais.
Oui, il faut juste pas foncer dedans.
Hein? Dans la porte. Fait qu'une mini brève avant de céder le micro à Marie-Ève. Il y a l'Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, qui prétend que le Canada remplit pas ses obligations internationales, à l'endroit des réfugiés, surtout qui arrivent, ceux qui arrivent par la frontière terrestre. Normalement, au début de la pandémie, bon, il y avait le ministre Bill Blair qui avait décrété que les demandeurs d'asile devraient faire un test de santé, se mettre en quarantaine pendant 14 jours, mais plutôt que, je sais pas si c'est des directives officielles qu'il y a eu, mais on refuse l'entrée carrément. Donc, de là, la poursuite qui s'en vient. Ça fait un peu écho à l'échec de la poursuite qui s'est rendue jusqu'en Cour suprême, je crois, sur l'entente des tiers pays sûrs. C'est un peu en complément, mais c'est un nouveau chapitre judiciaire qui s'entame et qui va prendre peut-être un an encore et qui va se rendre probablement aussi jusqu'en Cour suprême, parce que le gouvernement a tendance à se défendre très fort là-dessus. Donc, histoire à suivre. Marie-Ève, enfin la France!
Oui.
Tu devais avoir hâte de nous en parler.
Ben oui et non, parce que bon, c'est pas des sujets très...
c'est pas la France glorieuse.
Non, pas du tout. Non, c'est... Non. Parce que, ben, en fait, c'est aussi pour faire un lien avec mon blog sur CETA, où est-ce que, dans lequel j'ai évoqué le sort des personnes mineures. Évidemment, il n'y a pas juste l'Espagne, qui procède à des expulsions au mépris du droit international. Dans le cadre d'une enquête publiée début mai et basée sur des observations faites à la frontière franco-italienne en novembre dernier et aussi sur des témoignages recueillis jusqu'en avril 2021, auprès de bénévoles du côté italien. Human Rights Watch révèle des pratiques inquiétantes et récurrentes, en fait. De jeunes migrants de moins de 18 ans sont régulièrement refoulés de France et remis à l'Italie, avec rien de moins que des formulaires falsifiés par la police.
Okay.
Je vous explique. Human Rights Watch donne l'exemple de deux Soudanais âgés de 17 et 16 ans qui ont été renvoyés avec de fausses dates de naissance inscrites par la police française leur donnant 27 et 20 ans.
On les rend majeurs, finalement.
C'est ça. Ou encore celui d'un Pakistanais qui, lui, a dit aux policiers être âgé de 17 ans. Eux en ont décidé autrement sur le document de refus d'entrée sur le territoire français qui lui a été remis. Le jeune homme a découvert qu'ils avaient indiqué qu'il était né en 2000, c'est-à-dire 3 ans avant la date de naissance qui leur avait communiqué. Ce jeune homme-là, d'ailleurs, était détenu pendant la nuit avant d'être refoulé. Or, le rapport rappelle que la police aux frontières, en fait, a pas d'autorité légale du tout pour déterminer qui est mineur et qui l'est pas, et que la police doit orienter ces jeunes-là vers les autorités compétentes qui peuvent déterminer l'âge des jeunes.
Qui se mettent en contact avec le pays d'origine, j'imagine?
Ben, pas toujours. Il y a vraiment des autorités de la protection de l'enfance en France qui doivent prendre en charge les mineurs. Faut savoir aussi que sur le sol français, un mineur non accompagné est censé avoir droit à une protection, qu'il soit demandeur d'asile ou pas. Puis s'il décide de demander asile, puis ça, c'est le second point qui est mis de l'avant dans le rapport, c'est que les personnes migrantes, là encore, ne sont pas vraiment correctement pris en charge. D'après le Human Rights Watch, les personnes ne seraient pas toujours remises aux autorités compétentes, comme je disais, pour enregistrer leurs demandes, et même qu'ils disposent d'aucune information sur la possibilité même de demander asile. Donc, souvent, ils ne savent même pas qu'ils peuvent le faire. Donc, Human Rights Watch déplore aussi la rétention abusive, voire traumatisante pour les enfants, dans des préfabriqués de la police aux frontières à Menton, qui est à la frontière là, avec l'Italie. Ces préfabriqués-là, d'ailleurs, avaient fait l'objet de critiques depuis des années, mais ont fini par être validés par l'État français le 23 avril dernier en prétextant l'absence d'alternatives à court terme. Fait que, ben, comme on ne sait pas quoi faire, ben, on vous met dans des containers. Donc, la fermeture avait été demandée de ces centres là par l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers par Médecins du monde. Puis bon, la préfecture d'Alpes-Maritimes a été maintes fois mise en cause là depuis 2017 sur ce sujet-là, y compris par les tribunaux même, mais bon, la situation change pas. Puis il y a d'autres associations aussi, c'est ça, c'est que ces constats-là sont partagés par d'autres associations, dont le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant et aussi Kids Empowerment, qui elles ont saisi le Comité des droits de l'homme comité des droits de l'enfance, pardon, de l'ONU pour demander qu'une enquête soit menée sur ce qu'elle qualifie de violation grave et systématique commise par la France.
On appuie, là.
Oui, 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 puis parce que vous allez voir que il y a des choses qui sont reprochées comme à, par Human Rights Watch, mais il y a comme une coche au-dessus aussi. En fait, ouais, ok. Concrètement, je demandais combien de temps qu'il me restait. Désolée, chers auditeurs, auditrices, petite communication.
C'est une mission making of aujourd'hui.
Mais en fait, c'est que les la situation que je vous disais, que je vous ai évoquée concernant le fait de plus ou moins prendre en compte la minorité ou pas, le fait que les jeunes soient mineurs ou pas. Les associations ont même nommé ça le déni de minorité. Elles dénoncent aussi que le fait que les vérifications se fassent justement directement au poste de police, mais aussi qu'il existe des protocoles officiels qui, semble-t-il, prévoient que certains documents d'identité soient a priori considérés comme non valables, ce qui peut pas être fait. On parle même d'une pratique plus que douteuse qui consiste à mener des évaluations basées sur des critères physiques comme les tests osseux. On en a déjà parlé à l'émission, c'est une pratique qui a déjà été condamnée maintes fois par le comité de l'ONU.
Qui est jugée même cruelle.
Oui, effectivement, puis qui date un peu, en tout cas, qui a des relents d'une autre époque. Là. Finalement, les associations dénoncent les inégalités de traitement sur les territoires français. Par exemple, en 2019, le taux de reconnaissance de minorité entre départements variait de 16 à 100%, tu sais. Même que en 2018, le ministère de la Justice français lui-même a noté que les différences de traitement entre départements pouvaient avoir des conséquences vraiment importantes sur l'avenir des mineurs non accompagnés, sauf que depuis 2018, la situation perdure. Puis c'est pas la première fois, en terminant, que la France est critiquée pour son traitement des mineurs non accompagnés. En février dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme pointait déjà la défaillance de l'État français dans la prise en charge des mineurs et demandait réitérait le fait qu'un mineur non accompagné étranger est avant tout un enfant, qui a le droit de bénéficier de la protection de l'enfance et que ses besoins essentiels doivent être pris en compte. Puis en 2018, elle avait aussi rappelé que l'admission de mineurs étrangers isolés devait être immédiate, même en dehors d'une demande d'asile. Donc, c'est pas une question là de...
Au moins un traitement équitable, ou je sais pas, c'est un protocole clair appliqué à tout le monde.
Oui,
n'importe qui fait n'importe quoi. Là.
Exactement, exactement.
Donc, ce n'était pas la douce France, t'avais raison, Marie-Ève. Merci
c'est
beaucoup.
Les relents d'une autre France.
J'allais dire Franco, mais je me trompe de pays. on s'en va, on va aller en musique, l'artiste Xiu. L'album, c'est Oh No, sorti en mars dernier, c'est dans le palmarès anglo de Choc. La pièce, c'est Rumpus Room, c'est un featuring avec Angus Andrew de Liar. Donc, je disais Xiu, mais on prononce, je crois que c'est Soussou ou Chouchou. Groupe qui existe depuis 20 ans, qui vient de LA. C'est du noise électropop. On écoute ça aux Apatrides Anonymes sur choc.ca.
Pulse like a maracas. You don't care who hears.
It costs a lot to feel this cuckoo.
What is a bass without a crisis?
Just let them be. As a crisis, no posture, bad posture, flaming hot Cheetos, Fuego Takis. Don't do it.
Fingers cast in that head.
Lovelessly shot, lovelessly dried. Don't trip on your skates.
Thank you.
a coconut hit you on the head.
Also, needy and brown.
Chili Fritos. Original Google.
La pièce, c'est quoi? Rumpus Room sur choc.ca aux Apatrides. Mathieu, tu as l'agenda pour nous dans quelques instants.
Oui, monsieur.
Mais évidemment, je prends le crachoir. C'est à mon tour.
C'était
de
une
tourne
du palmarès, Simon, hein, oublie pas.
Palmarès anglo de choc, je ne me rappelle plus en quelle position, mais. Voilà, c'est ça. Quelques petites nouvelles toujours nationales. Ben, une des grosses nouvelles, évidemment, c'est la découverte des restes de ces 215 enfants autochtones à Kamloops. Donc, s'il y en a encore qui ont un malaise avec le mot génocide, je pense qu'on peut plus rien faire pour vous, là. Une nouvelle plus québécoise que je trouve qui est un peu en lien, en écho à cette découverte macabre. En fait, c'est en lien avec des enfants autochtones arrachés à leur famille. L'association Femmes autochtones du Québec qui demande au gouvernement provincial d'agir parce qu'il y a beaucoup de femmes autochtones qui veulent pas accoucher à l'hôpital, de peur de se faire automatiquement enlever leur bébé par les services sociaux. Dans le jargon des hôpitaux, on appelle ça des alertes bébés. Ça veut dire que les travailleurs sociaux demandent au personnel de la santé de les aviser dès la naissance des bébés pour intervenir immédiatement. L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues assassinées avait condamné cette pratique des alertes bébés et recommandé à toutes les provinces de l'abolir, ce qui a été fait dans plusieurs provinces, mais pas au Québec. Donc, il y aurait vraiment une approche autant systémique que systématique. On associerait automatiquement femmes autochtones avec drogue, alcool et autres dépendances. Beaucoup de préjugés tenaces parmi le personnel des services sociaux et de santé.
On l'a vu à Joliette, à Trois-Rivières cette semaine.
Ben, on a vu ça. Les conclusions, on sent que ça s'en va vers ça, que le mauvais traitement infligé sont dus à ces préjugés-là, mm-hmm. et que la mort est finalement plus ou moins directement causée par ça. Donc, ça entre dans le principe de Joyce et aussi dans les conclusions du rapport de la commission Vient, c'est-à-dire de fournir des services publics qui respectent la dignité des personnes autochtones. Autre nouvelle, la routine, quoi, un cas de profilage racial. Plus lamentable que la moyenne, je vous dirais. Selwyn Romilly a été interpellé et menotté au parc Stanley par la police de Vancouver. Monsieur Romilly est le premier juge noir de la Cour suprême de la Colombie-Britannique et il a 81 ans. Il a qualifié l'expérience de très gênante, c'est le moins qu'on puisse dire, de se faire menotter de manière brutale devant les familles qui jouent sur la plage. On va en profiter pour décerner le prix du discernement aux agents de police de Vancouver qui recherchaient un suspect à la peau foncée de 40 ou 50 ans. Okay. Je rappelle que M. Romilly a 81 ans. Donc voilà, le premier noir qu'on voit, même s'il a le double de l'âge, on le plaque sur l'autopatrouille et on le menotte. Évidemment, en sa qualité d'ex-juge, M. Romilly a eu droit à des excuses publiques de la part des chefs de police et du maire de Vancouver, mais ça se termine pas toujours bien comme ça.
Donc, non, il a été chanceux dans sa malchance.
Ouais, une chance qu'il était juge avant. Mathieu, à l'agenda, qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours, prochaines semaines?
Ben, j'ai une suggestion en lien avec la Palestine et Israël. J'en ai parlé tantôt. Mm-hmm. Un court film qui s'appelle Jenin. C'est le nom d'une ville en Cisjordanie. Ça nous ramène un peu dans le temps pour nous dire que c'est pas nouveau ce qui se passe là-bas.
Aucun non.
Donc, c'est un court film sur le déferlement insensé de violence contre la ville de Jenin en 2002 par l'armée israélienne qui se croit autorisée après le 11 septembre 2001 à faire n'importe quoi. Bien sûr, la commission d'enquête n'a n'aura jamais lieu, et c'est le film de Mohamed Bakri, qui est un Palestinien, qui était sur place, qui permettra d'en savoir plus et surtout de diffuser ces images au plus grand nombre pour ne pas oublier.
Toi, moi, ça me dit absolument rien. Les caméras du monde entier étaient tournées ailleurs, là, à cette période-là.
Ouais, mais ça a pris quand même 5 jours à l'armée israélienne pour rentrer dans Jenin, qui est un camp de réfugiés, dans le fond, devenu une ville. Fait qu'il y avait une bonne résistance. Donc, l'armée a tout de suite voulu interdire ce film, et c'est après une longue procédure de harcèlement judiciaire de 20 ans sur des détails techniques qu'elle a eu gain de cause, l'armée israélienne. Écoutez ça, en janvier dernier, un tribunal israélien a statué que le documentaire sera interdit de projection en Israël. Toutes les copies doivent être rassemblées et détruites.
Ben oui.
Le juge a ordonné que le producteur israélien réalisateur et acteur Mohamed Bakri doit payer des dommages et intérêts à un officier israélien qui a participé au massacre et apparaît dans le film pendant environ 5 secondes. Il s'appelle lieutenant-colonel de réserve Nissin Maganij, qui va recevoir cette indemnisation. Et je voulais vous dire finalement...
Tu l'as nommé, là, attention.
Oui, je sais. Il est 5 secondes dans le film. Il y a personne qui a été condamné pour cette... Il y a eu des morts et tout, évidemment. Et le film est sur Vimeo, c'est Jenin, avec sous-titre français, si ça vous tente d'aller voir ça. C'est quand même... Je l'ai vu, c'est quand même quelque chose. C'est du vrai live.
Parfait, oui, ça a l'air très intéressant.
Changement de sujet complètement. Noir à la caméra, une rétrospective de 100 ans de cinéma noir au Canada. Donc, tout au long du mois de juin, la Cinémathèque québécoise sera l'hôte d'une rétrospective du cinéma noir, du cinéma muet au documentaire, en passant par les films d'animation et les reconstitutions historiques. C'est Fabienne Collat qui a eu l'idée de ce projet. C'est elle qui a fondé le Festival international du film Black de Montréal, de Toronto et d'Halifax. Donc, c'est des films de partout dans le monde et de toutes les époques, dont Within Our Gates, 1920, un film muet d'Oscar Michaud qui dépeint la situation raciale aux États-Unis au début du 20e siècle. On peut faire le lien avec Tulsa, là.
C'était en 1921.
Exactement. La programmation fera place à la relève avec la présentation de 10 courts-métrages documentaires réalisés par des jeunes qui ont participé au programme Être noir au Canada. Et d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, le programme a permis à 6 cinéastes de remporter le prix de la meilleure réalisation d'une série documentaire au prix Écran canadien, les anciens génies. Exactement. Pour la série Être noir à Toronto, qui regroupe 6 courts-métrages abordant la question de l'intégration sociale des personnes issues des communautés noires dans leur ville. Donc, c'est quand même un projet intéressant, disons, en général. Fait que là, tout le mois de juin à la Cinémathèque, on a le droit à des films de toutes sortes.
Mais c'est international comme programmation.
C'est des films surtout canadiens, un peu américains. C'est ça, donc c'est exactement ça.
Et est-ce que c'est vraiment une programmation en salle, là? C'est pas qu'en ligne ou tout ça, là?
C'est les deux.
OK.
Donc, c'est vraiment ça s'appelle Noir à la caméra, donc pour trouver l'information.
Parfait.
Si j'ai 2 minutes, Simon,
vas-y.
Exposition, donc, au centre DAF à Montréal, qui est dans Rosemont. Exposition solo de l'artiste Wendat Michel Savard qui inaugure ce nouveau centre, on en a parlé à l'émission, tout premier centre artistique autogéré par des autochtones au Québec. Donc parure de Michel Savard, qui est un artiste multidisciplinaire originaire de Wendake. On parle ici dans l'exposition de bijoux, de portraits, de coiffes, de peintures, de composantes électroniques, de coquillages, donc peinture, installation, objets recyclés, qui représentent l'histoire et le présent. C'est jusqu'au 26 juin, donc c'est sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Je rappelle, c'est Daphne, le centre d'art.
Oui, puis il paraît en tout cas que les premiers jours, j'ai entendu dire que c'était très, très, très couru quand ça
a ouvert. Au mois de mai. Ouais.
Donc, si vous voulez y aller, ça vaut peut-être la peine de regarder un peu qu'est-ce que l'achalandage a l'air, parce que il y a un nombre illimité de personnes qui peut entrer à l'intérieur. Le centre n'est pas si grand.
OK. Merci de ce conseil d'expert.
Je ne sais pas si on réserve en ligne ou on se rend sur place directement.
Ah là. Ouais.
Les modalités.
Cherchez Centre d'art Daphne dans Rosemont.
Merci.
Sinon, dernière information, Simon. Le regard féminin, cycle de cinéma, jeune réalisatrice mexicaine. C'est en ligne du 1er au 15 juin, organisé par l'Instituto Cultural de México et l'Espacio Mexico Montreal.
Quel accent.
Et le laboratoire Cinémédia. Donc, c'est des femmes qui font partie de la nouvelle génération de cinéastes engagées dans la représentation du Mexique contemporain. Donc, des récits à la fois intimes et universels des communautés autochtones, LGBT+, afro-mexicaines, rurales et urbaines. J'ai pas de film à vous donner en exemple parce que c'était pas tout à fait clair exactement quel film allait passer à quel moment. Mais c'est du 1er au 15 juin. Allez voir sur Facebook ou sur Internet, cycle de cinéma, jeune réalisatrice mexicaine. Et c'est des courts, des moyens, des longs, documentaires, fiction. Donc, c'est intéressant si vous voulez voir autre chose que des séries policières sur le web.
Un cinéma mexicain qui est toujours souvent créatif, très diversifié.
Très vivant. Et très engagé aussi.
C'est un énorme pays avec toutes sortes de courants culturels.
Très, très politique souvent.
On s'en va, ben oui, déjà à la conclusion de l'émission, dans quelques, après ces quelques notes de musique, les apatrides vont vous dire.
Au revoir.
Au revoir. Merci Mathieu pour l'agenda. L'émission presque terminée. On va se laisser sur des perles kakistes bien savoureuses. On n'en a pas eu, hein? Ben non, on peut pas s'en passer. Je suis là pour vous en servir.
Ben, je suis content si on entend ça.
Ben oui, tu t'ennuyais de ton Rolin Barrette. on vous parlait dans d'autres émissions de la dichotomie du paradoxe économico-identitaire de la CAQ qui est déchirée entre relance économique et nationalisme identitaire à cause des pénuries de main-d'œuvre, surtout, ce qui doit être mentalement assez difficile à gérer pour certains, les pauvres. On apprenait il y a quelques semaines qu'il y a déjà des dérogations prévues aux réformes en immigration de Rolin Barrette qui ont été accordées à certains secteurs économiques bien ciblés, là, où la pénurie de main-d'œuvre menace la reprise et on ne peut pas vraiment avoir recours à des travailleurs temporaires. Donc, on parle de trucs de pointe là, comme intelligence artificielle, les technologies de l'information, etc. Donc, plutôt que d'exiger une connaissance du français dès l'examen des demandes des candidats, comme la réforme le prévoit, on va se limiter à exiger un engagement signé de francisation avec un certain échéancier. La préférée de Mathieu, Nadine Giraud, se dit impliquée dans le processus d'assouplissement. Donc, voilà qui nous rassure. Moi, je soupçonne que Legault s'est fait parler dans le casse par ses amis du milieu des affaires, comme quoi, ben, c'est bien cute les petites réformes populistes, mais qu'eux, ils veulent pas perdre d'argent, tu sais, donc être obligés de fermer leur shop, finalement.
Puis suite à ces déclarations, j'imagine, sur le 56 000 $,
j'y arrive. Monsieur, on est presque pareil mentalement, toi et moi. Donc, ben c'est ça. Ben, la citation exacte, c'était, je prends-tu l'accent?
Oui.
À chaque fois que je rentre un immigrant qui gagne moins de 56 000 $, j'en paye mon problème. À travailler, hein?
Oui. Non, okay. C'est François Legault, l'a reconnu.
Ah oui, OK. Oui. C'était moi. Bon, ce qui a insulté plein de monde, donc dont beaucoup d'immigrants ou d'enfants d'immigrants dont les parents ou grands-parents sont arrivés en Amérique du Nord avec très peu d'argent et qui, au bout d'une génération, ont déjà bien contribué à enrichir le Québec. Donc, de rabaisser les humains qui gagnent moins de 56 000 $ au niveau de problèmes, bien, il y en a qui ne l'ont pas vraiment pris, comme la députée solidaire de Mercier, Rouba Gazal, qui a essayé d'obtenir en période de questions des excuses du premier ministre, mais ça a eu l'effet contraire. Il s'est fâché très, très fort après elle, puis Rolin Barrette s'est levé pour en faire une question de règlement, ce qui était complètement absurde. Mm-hmm. Donc, alors voilà, des bons immigrants et des mauvais immigrants, un bon vieux principe raciste remis au goût du jour avec encore plus d'intensité par notre bon premier ministre. Mm-hmm. C'était la perle, les perles caquistes, là. On en aura plus, peut-être la prochaine fois, là. On va se laisser là-dessus. J'en profite pour saluer les deux autres apatrides, Mathieu et Marie-Ève. Merci beaucoup.
Ben oui, puis t'as pas parlé de Pierre Fitzgibbon, mon ami?
Ben, il n'y a pas de lien avec frontières, immigration. Ben, il est parti, mais il va rester conseiller.
Ouais.
On le comprend, puis on va réadapter les codes d'éthique. Il va revenir. Mais ne vous inquiétez pas.
Mais c'est lui le porte-parole du patronat dans le gouvernement. Fait qu'il a dû y parler.
Ouais. Ben oui. Puis ça a l'air qu'il voulait pas vendre ses actions parce qu'il aurait perdu 1 000 000 $. Moi, j'aimerais ça pouvoir dire ça, mais pas tout de suite.
Oui, surtout qu'il a vendu une entreprise 3 milliards il y a quelques années, Simon.
Ben, il était actionnaire. C'est pas son entreprise.
Non, mais il a fait quelques dizaines de millions à l'époque.
Il a dû empocher un petit peu, effectivement. Donc, merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Simon, pour l'animation.
Ben oui, merci pour l'agenda Israël-Palestine. Merci, Marie-Ève, pour l'enclave
Ceuta.
Et
oui.
Pour les actualités françaises aussi. Merci beaucoup.
La bureaucratie française.
Merci à vous deux pour votre job à la console, l'alternance, le jeu de domino habituel.
Ça fait plaisir.
Donc, on se retrouve pour une autre émission le jeudi 17 juin à 18h30. Et ça va être notre 50e émission.
Oh.
On va en parler tantôt. On va peut-être préparer un petit quelque chose de spécial. On se garde aussi la surprise pour nous-mêmes, finalement.
C'est bon.
Je laisse nos coordonnées à patridesanonymes@resist.ca. Notre site web, apatridesanonymes.info. On a une page...
FB.
Merci Mathieu. Sinon, sur choc.ca, tous nos balados sont là aussi avec plein d'autres émissions. On se laisse en musique. Le projet s'appelle un sextuor post-rock instrumental de Montréal, sauf les drones. C'est assez récent comme projet. Ça a été formé en 2017. La pièce s'appelle En groupe devant le miroir. L'album, lui, s'appelle Chercher le trouble. Ça vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Il y avait même un embargo. On n'avait pas le droit d'en jouer. Fait que là, on le fait jouer. C'est Sauf les drones en groupe devant le miroir. C'était les Apatrides Anonymes sur choc.ca en compagnie de Mathieu, Marie-Ève et Simon.
Bonne soirée.
On vous dit
bonne soirée.
Voilà.